Ok, je reprends, je reprends. On est dans le livre blanc, on est à la page 95. Ceux qui ont le livre rouge, on est à la page 18. On est en train d'expliquer, dans ce chapitre 5, l'importance de l'étude de la Torah. Autant dans le chapitre 4, on a expliqué l'importance des mitzvot, comment ce qui compte dans la vie d'un juif, concrètement, c'est l'action. Peu importe si je comprends ou je comprends pas. Autant dans le chapitre 5... Allez, s'il vous plaît, ça suffit, s'il vous plaît. Autant dans le chapitre 5, on a expliqué l'importance du limoud à Torah. Bonsoir. L'importance de l'étude de la Torah. Comment, lorsqu'une personne étudie la Torah, on a expliqué le concept divin attrape la personne et la personne attrape le concept divin. On a expliqué comme ça la semaine dernière. On a dit que quand on étudie quelque chose, on voit comment, avec le temps, le concept que j'étudie, il me change ma personne. C'est-à-dire qu'à force d'étudier, par exemple, certaines lectures, eh ben, je commence à réfléchir comme ça. Je vais donner un exemple la semaine dernière, comme en politique, par exemple. On voit qu'une personne, imaginons, en politique, il a des idées de gauche. Imaginons. D'accord? Dieu préserve ou pas Dieu préserve, comme vous voulez. Donc, c'est son droit. C'est un droit. D'accord? Donc, imaginons une personne qui a des idées politiques de gauche. Et qui va prendre des livres. Il va commencer à lire des livres qui parlent avec des idées de droite. C'est pas grave, qu'est-ce qu'il y a? Je lis, j'ai le droit de lire. Eh ben, instinctivement, avec le temps, à force de lire, ce qu'on avait expliqué la semaine dernière, c'est qu'avec le temps, le concept rentre dans ma tête, et ça peut plus devenir un concept qui est différent de moi-même. Le concept devient moi, et moi je deviens le concept. On peut pas être constamment différent d'un texte. Ça veut dire que, quand t'es une personne qui étudie la Torah, que pas que la Torah, tous les concepts, et qui te dit, moi j'étudie la Torah, mais je reste distant. Il y a la Torah, il y a moi. Ça, il dit ça au début. Mais après, à force de répéter, ce qu'on a expliqué la semaine dernière, on a dit que moi, j'attrape le concept et le concept m'attrape. Imaginez maintenant, quand on parle de l'étude de la Torah, ça veut dire que c'est quoi la Torah? La Torah, c'est la Chochma d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que moi, j'attrape la Chochma de Dieu et la Chochma de Dieu m'attrape. Vous imaginez ce que ça veut dire? En plus, qu'on a expliqué la semaine dernière, les gens, quand ils viennent à cours de Torah, ils pensent que le but est de comprendre. Comme on va expliquer aujourd'hui, c'est très important de comprendre. Mais le fait même que mon cerveau était occupé à essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu attend de moi, c'est déjà, j'ai déjà tout gagné avec ça. C'est-à-dire que mon cerveau est là en train de penser à Dieu. Mais t'as tout gagné. C'est-à-dire que ton cerveau attrape Dieu, Dieu t'attrape. Donc ce qu'on a expliqué la semaine dernière, c'est le fait même d'avoir le cerveau occupé à l'étude de la Torah, c'est déjà tout gagné. Et je terminerai juste avec ce qu'on a expliqué la semaine dernière sur ce concept-là. On a dit des fois ça peut nous arriver qu'on peut passer plusieurs heures sur un texte. D'accord? Et qu'après, au bout de plusieurs heures, tu te rends compte que tu t'es planté, tu t'es trompé. Par exemple, t'as raté une page ou t'avais pas bien la traduction d'un mot, donc tu t'es trompé. Donc, si on étudiait une autre science, on aurait dit, ben, désolé pour les 4-5 heures que t'as perdu, c'est perdu. T'as perdu ton temps, t'as mal compris. Kapara. Quand on parle de l'étude de la Torah, on ne dira jamais que ces 5 heures-là sont perdues et que pendant ces 5 heures, tu n'as pas fait l'étude de la Torah. Non. Pendant ces 5 heures, tu as fait la misère d'étudier la Torah. Pourquoi? Parce que ton cerveau était occupé à chercher à comprendre la grandeur de Dieu. Et ça même, c'est déjà le but. Que mon cerveau cherche à attraper le divin et que le divin m'attrape, même si j'ai pas tout compris. Mais le fait même que j'étais occupé à ça, ça même, c'est déjà un but et c'est même le but primaire pour lequel on étudie la Torah.
C'est l'action, en fait.
C'est pas l'action. C'est
l'action d'étudier.
Exactement. On va rentrer aujourd'hui. Maintenant, je suis conscient que la semaine dernière, quand on a terminé le cours, il y a plusieurs qui m'ont dit que c'était une des notions qui n'était pas facile. Je suis conscient. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le cours d'aujourd'hui, il va nous donner un exemple concret de la vie de tous les jours. Et on va parler de nourriture. De bouffe, excusez-moi du terme. D'accord? Et il va nous expliquer que la Torah est comparée à la nourriture. Alors c'est très intéressant parce qu'en vérité, on va reprendre qu'est-ce qui se passe dans la nourriture, donc on va parler de beaucoup de choses. On va parler de nourriture, de viande, de pain, de digestion, etc. Et quand on va analyser qu'est-ce qui se passe quand on mange quelque chose, étant donné que la Torah va être comparée à la nourriture, eh ben, la nourriture va nous permettre de comprendre pas mal de détails par rapport à la Torah. D'accord? Ça veut dire, ça va nous permettre de comprendre un peu mieux ce concept qu'on a expliqué la semaine dernière, que moi j'attrape le concept et le concept m'attrape. On retrouve beaucoup ça dans les aliments. Donc je suis... Alors, excusez-moi, juste avant une parenthèse, il y a plusieurs personnes après le cours la semaine dernière qui m'ont dit que quand il y a beaucoup de questions, ça perd le fil et pour plusieurs personnes c'est difficile. Donc ce qu'on va faire à partir d'aujourd'hui, on va marquer 2 ou 3 pauses dans le cours pour poser les questions, après le cours avec plaisir, mais on va devoir cadrer tout ça parce qu'il y a certains que ça dérange pas, moi le premier ça ne dérange pas, hein, au contraire, j'aime beaucoup les questions, mais il y a certains, je vois qu'ils perdent le fil, après une fois qu'on perd le fil, pour le reprendre c'est compliqué. Donc on va essayer, là maintenant qu'on a fait le résumé de la semaine dernière, on va essayer de rester cadré, et bien attention, dans quelques minutes je ferai une pause pour les questions, d'accord? Voilà. Sans offenser personne, Chassé Shalom, hein, je passe pas du tout. Non, moi je viens du monde de la yeshiva. Dans le monde de la yeshiva, on pose des questions, bien sûr, au contraire. Quand on rentre dans une salle de yeshiva, il y a beaucoup de bruit, d'accord? Ne croyez pas, celui qui m'entend parler Shabbat, il croit que je suis allergique au bruit. Moi, je suis pas du tout allergique au bruit. Vous savez, quand on rentre dans une salle de yeshiva, t'as des centaines de personnes qui parlent en même temps et chacun étudie sans aucun problème. Mais quand on voit qu'il y a certaines personnes qui sont pas habituées à ça, qui sont déconcentrées, c'est pour ça qu'on est obligé de cadrer. Mmh. Voilà. Bon, je referme la parenthèse. Maintenant, où les fiches beyidiat à Torah? A Torah meloubeshet ben nefesh adam vesichlo. Étant donné que quand on connaît la Torah, quand on étudie la Torah est habillée dans l'âme de l'homme, vesichlo, bravo, ou mukefet betoham. C'est des notions qu'on va revenir tout de suite. C'est-à-dire que quand j'étudie la Torah fait partie intégrante de ma personne. La reine, c'est pour ça, nikret beshem lechem. C'est pour ça que la Torah est appelée le pain. Là, en vérité, la clé pour comprendre ce qu'on a expliqué la semaine dernière, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que la Torah fait partie de moi et moi je fais partie de la Torah? La clé se trouve dans le pain. Pourquoi?
Le pain.
Le pain. D'accord? Pourquoi? Parce que la Torah est comparée au pain. Quel rapport avec le pain? D'accord? Elle est comparée à l'eau, c'est exactement. Quel rapport avec le pain maintenant? Autre exemple, on voit que dans la Gemara Souka, on nous dit que la Torah est comparée à Maison à Nefesh. La nourriture de l'âme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la même manière que le corps, notre corps a besoin de manger, il a besoin de boire, il a besoin de manger, et il a besoin d'avoir des féculents, il a besoin d'avoir beaucoup de choses, d'accord? C'est-à-dire qu'on peut pas manger, même si une personne, par exemple, il aime les steaks, il peut pas manger que des steaks, il est obligé de varier. Et bien de la même manière, quand on étudie la Torah, on a besoin de manger. La Torah, c'est la nourriture de l'âme. Et c'est pour ça que quand on mange la Torah, on doit varier aussi. C'est-à-dire qu'on va retrouver exactement les mêmes concepts que dans la nourriture. Celui qui est là qui dit, moi j'aime steak, hamburger, coca, il va manger ça toute la journée, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, Joe? Il sera en bonne santé ou pas? Hein? C'est peut-être bon. D'accord? Ah, c'est pizza maintenant. Alors, c'est peut-être bon. Hein? Donc, c'est peut-être bon, mais on est obligé de varier. Pourquoi on est obligé de varier? Parce que le corps humain est fait comme ça. Le corps humain est fait que le corps a besoin de plusieurs choses, d'accord? Donc, il y a des féculents, il y a plein de choses, d'accord? Il y a des sucres, etc. Il y a des sucres lents, il y a plein de choses. Donc, on est obligé de consommer tout ça pour être en bonne santé. Eh ben, figurez-vous que l'étude de la Torah, c'est la même chose. Notre âme a besoin de manger. Parce que notre âme, pour communiquer avec Dieu, elle a besoin d'essence, elle a besoin de manger. Et c'est quoi sa nourriture? C'est quoi sa nourriture? Sa nourriture, c'est l'étude de la Torah. La nourriture de l'âme, c'est l'étude de la Torah. Pourquoi? Autant quand on fait une mitzvah, on s'enveloppe d'une aura de lumière. Chaque fois que je fais une mitzvah, sans que je le sache, ma neshama est entourée d'un rayon de lumière. Mais la neshama ne change pas. Alors que dans la nourriture, quand on mange, qu'est-ce qui se passe? Quand on mange, le corps change. Qu'est-ce qui fait la différence entre un bébé de 1 mois et ce même bébé quand il aura 20 ans? Pourquoi le bébé d'un mois, il pèse 3 kilos, 4 kilos, 5 kilos, d'accord? Et celui qui a 20 ans, il va peser, je sais pas combien, 80 kilos. D'où ils sont sortis, c'est 75 kilos. Alors, qu'est-ce qui a fait 75 kilos? D'où ils sont sortis? Comment ils sont venus? Mais d'où ils sont venus? D'accord? De ce qu'il a mangé. Tout ce qu'il a mangé, tout le pain qu'il a mangé, toute la nourriture qu'il a mangé, tous les soupes qu'il a mangé, tous les steaks qu'il a mangé, tout ce qu'il a mangé, avec le temps, qu'est-ce que ça a fait? Eh ben, ça a fait la différence entre un bébé qui pesait 3 kilos, et un adulte qui pèse 80 ou 100 kilos. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand je mange, la particularité qu'il y a dans la nourriture, c'est que la nourriture, bien que le corps rejette ce qu'il n'a pas besoin, mais la nourriture devient partie intégrante de moi. C'est-à-dire que si je me demande, dans ma chair, là, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a dans ma chair? Pourquoi quand j'étais petit, j'avais une main qui faisait ça, et maintenant ma main fait ça?
Des carottes.
D'accord? C'est quoi? Ben, dedans, il y a des carottes, du pain, il y a des tomates, il y a des concombres, il y a tout ce que tu veux. Il y a de la viande, il y a du poisson, tout est là. Seulement quoi? Est-ce que quand je vois ma main, je vois du poisson? Est-ce que je vois de la viande? Non. Parce que ce que j'ai mangé fait partie de moi. Je l'ai transformé, d'accord? D'âme ou bassar, ça s'est transformé en sang et en chair. Et ben, c'est exactement la même chose quand on parle d'étudier la Torah. Vous avez des fois des gens qui vont vous dire, ouais, moi je viens à des cours de Torah, mais j'apprends rien. Je change pas. On te dit, il faut pas regarder à court terme. C'est comme celui qui va manger un steak, et va dire, j'ai pas vu que j'ai grossi. On dit, mais c'est pas comme ça qu'il faut voir. Faut voir à long terme. Quand tu vois à long terme, quand tu vas voir à long terme, tu vas voir la différence qu'il y a et tu vas te revoir comment tu étais avant, c'est là que tu vas voir la différence. Exactement comme le pain. Que si maintenant je vais aller me peser chaque fois après que je vais manger, c'est pas comme ça que je vais savoir ce que j'ai grossi ou pas. C'est pas après avoir mangé qu'il faut se peser. Ça sert à rien. C'est à long terme que quelque chose comme ça se voit. C'est à moyen ou à long terme. Et ben, de la même manière quand on parle d'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est la nourriture de l'âme. Comme on parle de nourriture de l'âme, on peut pas maintenant venir après un cours de Torah et dire aujourd'hui, est-ce que j'ai changé ou j'ai pas changé? Ça marche pas comme ça. C'est comme la nourriture. C'est, il faut d'abord digérer, il faut manger, ça prend des années, ça prend très longtemps. Et après, quand tu prends des années, quand tu rencontres quelqu'un que t'as pas rencontré depuis des années, il dit, mais dis donc, t'as changé, toi. Et c'est là que tu dis, ah oui, j'ai changé, bah dis donc, moi j'ai pas remarqué. Ou bien des fois tu revois une vidéo, d'accord? Tu te revois dans une vidéo quand tu avais 5-6 ans en arrière, et tu dis, bah dis donc, j'ai fait du chemin depuis, hein, c'est vrai, j'ai fait du chemin. Pourtant, je me rends pas compte. Exactement comme le bébé, d'accord? Qu'il s'est pas rendu compte au jour le jour comment il a grossi. Lui-même, il se rend pas compte. Il s'est pas rendu compte, aujourd'hui j'ai pris 500 grammes, aujourd'hui j'ai pris 100 grammes, aujourd'hui j'ai pris 50 grammes. Il s'est pas rendu compte, il se rend pas compte de tout ça. Et pourtant, ça se passe, c'est en train de se passer. Et ben, c'est exactement la même chose dans le Limoud Torah. Quand j'étudie la Torah, sans que je le veuille, c'est comme ça, c'est automatique. J'ai des concepts qui commencent petit à petit à faire partie de mon vécu. Comme cette viande et ce pain qui font partie de ma chair, et ben, de la même manière, quand je mange, entre guillemets, la Torah, et ben, petit à petit, j'ai des concepts qui font partie de mon vécu. Même si moi, je m'en rends pas compte, et que je vais rentrer à la maison, je vais dire, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Peut-être, je pense, j'ai rien appris. Mais petit à petit, je mange, et j'ai des concepts qui font partie de mon vécu, et c'est seulement des mois et des années plus tard que je dis, ben, tiens, dis donc, j'ai fait du chemin. Là, vous voyez, on voit que l'idée de la nourriture nous permet de comprendre pas mal de choses. Mais Michael, elle nous a fait remarquer une idée qui est juste tout à l'heure. Il a dit que dans la nourriture, il n'y a pas que manger. D'accord? C'est pas juste, on prend, on mange. C'est pas juste une pile. Tu prends, tu mets une pile. Il y a plusieurs étapes quand tu manges. D'abord, tu manges, tu vas devoir mâcher. Après, quand tu vas devoir mâcher, après, à l'intérieur, il y a les intestins qui vont travailler tout ça. Qui vont travailler, qui vont filtrer, qui vont enlever les mauvaises parties, les bonnes parties. C'est-à-dire qu'il y a un travail, ça se fait pas comme ça. Celui qui pense que il va mettre une pile et qu'il prend une pilule et il va manger, ça, c'est bon quand on est malade. D'accord? Quand on est malade, bon, on va donner une pilule, on va dire, voilà, dans cette pilule, t'as tant de calories. Mais c'est pas comme ça qu'on mange. Une personne normale qui mange, il doit manger de la nourriture normale, il doit la digérer, il doit la mâcher, il doit filtrer, il doit trier, ça prend du temps. Et ben, on va retrouver exactement toutes ces étapes-là dans l'étude de la Torah. Ces étapes-là. Mâcher, digérer, trier, rejeter certaines choses, même rejeter certaines choses. On y va. Donc, dans les mots. Kikmo shalechem agashmi. Là, vous voyez, donc là, on commence déjà à comprendre un peu mieux le concept de la semaine dernière. Qu'est-ce que ça veut dire que la Torah fait partie de moi? Là, avec la viande, on comprend. De la même manière que le pain fait partie de ma chair, de la même manière, la Torah fait partie de ma chair. La Torah, c'est moi, et moi, c'est la Torah. Ça veut dire que, il n'y a pas l'idée et moi. Ça fait partie de moi, comme le pain fait partie de ma chair. Il n'y a pas le pain et moi. C'est-à-dire, celui maintenant qui va ouvrir, Dieu préserve, sa main, il ne trouvera pas à l'intérieur du beefsteak. Il n'y a pas. Et pourtant, il vient de ça. Parce que, ça fait partie de moi. Il n'y a plus le pain et moi. Le pain, c'est moi, et moi, c'est le pain. Eh ben, c'est la même chose pour l'étude de la Torah. Kikmo, shalechem, agashmi, zan et agouf. De la même manière que le pain matériel. Zan et agouf. Nourrit le corps. Kshemach niso, betoro, vekirbo, mamash. Quand on fait rentrer le pain dans le corps, qu'est-ce qui se passe? Le pain nourrit le corps. Venev parcham, il va se transformer dans le corps. Liot, dam, uvasar, kipsaro. À l'intérieur de mon corps, le pain va se transformer en quoi? En sang et en chair. Bien sûr, on va filtrer. D'accord? Il y a certaines parties qui vont partir dans les excréments. Mais ce qui part dans les excréments, c'est ce que le corps n'a pas besoin. Mais il y a le principal, l'énergie qu'il y a dans ce pain, qui va être récupérée et qui va se transformer en sang et en chair. Et donc après, je peux plus dire, il y a le pain et il y a moi. Non, le pain c'est moi, moi c'est le pain. C'est moi, c'est mon corps, c'est moi-même. Et à ce moment-là, c'est là que la personne peut rester en vie. Alors de la même manière, on va retrouver ça dans l'étude de la Torah. De la même manière, quand une personne étudie la Torah, car il en a de même. Et bien, de la même manière que le corps a besoin de manger, l'âme aussi a besoin de manger. Et comment l'âme mange? L'âme va manger quand elle va étudier la Torah. Lorsqu'elle va étudier la Torah, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? L'âme est en train de manger. Elle mange. Shalom da'etev beyun tichlo. Maintenant, qu'est-ce qu'on avait dit dans la nourriture? Quand je prends la nourriture, est-ce que c'est comme une pile que je la prends directement? Non, c'est pas comme ça. C'est pas tu prends une pile et tu charges ton corps. Non. Il faut prendre, tu vas prendre la nourriture. Et qu'est-ce qu'on fait d'abord avec la nourriture? On va la mâcher. Qu'est-ce qu'on fait quand on mâche la nourriture? Pourquoi on mâche la nourriture? D'accord? Pourquoi? Parce que j'ai besoin de la moutre, de l'écraser au maximum pour qu'elle puisse être digérée le mieux possible. Parce que si on avait la capacité de digérer directement sans trop mâcher, on l'aurait fait. D'accord? C'est pour ça d'ailleurs les gens qui mangent trop vite, ils ont du mal à digérer. Pourquoi ils ont du mal à digérer? Parce qu'ils n'ont pas assez mâché. Ben, c'est exactement la même chose. On retrouve exactement la même chose quand on étudie la Torah. Quand tu étudies la Torah, t'as un travail de mâcher. Tu prends le texte et tu mâches. Qu'est-ce que tu fais quand tu m'as dit, mais ça y est, tu l'as mis dans ta bouche. Avale-le déjà, ça y est, c'est fini, passe au suivant. Passe à la bouchée suivante. Qu'est-ce que t'es là en train de te prendre la tête avec cette bouchée? Passe au suivant déjà. Non, marche pas comme ça. C'est pas parce que je l'ai rentré dans ma bouche que je l'ai compris. Non, faut d'abord que je le rentre dans ma bouche. Je dois le mâcher, je dois bien l'écraser, d'accord? Et après, je vais le rentrer dans mon corps et après il y aura d'autres étapes, je vais devoir le digérer. Ben, c'est la même chose. Quand tu étudies la Torah, hein, tu peux pas venir et dire directement, bon, ça y est, j'ai écouté ce qu'elle a dit, j'ai compris, elle est next, au suivant. Non, ça marche pas comme ça. Il faut mâcher. Il faut travailler. Il faut repasser, d'accord? Il faut l'écraser, il faut bien t'assurer qu'il soit bien digérable. Donc on retrouve exactement la même chose que dans quand on mange quelque chose. Donc chez l'homme d'Aetev beyun sichlo ad shenit peset besichlo umitachedet imo vayu lachadim. De la même manière que quand on a mangé une nourriture physique, cette nourriture est devenue partie intégrante de ma personne. De la même manière, quand j'étudie la Torah et que là c'est mon âme qui est en train de manger, eh ben cette étude fait partie de ma personne. Ah, je le sens pas, mais c'est pas comme ça qu'on le sent. Ça prend des années pour le sentir, comme la nourriture. Ah, j'ai pas vu comment j'ai mangé un morceau de pain et j'ai grossi. C'est pas comme ça qu'on le voit. Quand tu vas grandir, là, on verra la différence qu'il y a entre un nourrisson et un adulte de 20 ans. Mais sur le coup, tu te rends pas compte. Ça prend des années pour se rendre compte des choses comme ça. Ben, c'est exactement la même chose dans l'étude de la Torah. Maintenant, puisqu'on parle de nourriture, vous savez, dans la nourriture, il y a différentes catégories de nourriture. Il y a des nourritures qui sont plus raffinées. Il y a des nourritures qui sont plus, j'ai pas envie de dire grossières, mais plus grossières, plus épaisses, plus, d'accord? Moins raffinées, plus gras, moins raffinées. D'accord? C'est? On est d'accord, Joe? D'accord. Bon, il y a différentes catégories de nourriture, c'est comme ça. D'accord? Il y a la dafina, il y a la fkela, voilà.
La bouche de vache.
Bon, donc en tout cas, il y a différentes catégories de nourriture. Il y a des nourritures qui sont plus raffinées. Il y a des nourritures qui sont plus épaisses. D'accord? Maintenant, notre corps a besoin des deux. Vous savez, des fois, ça nous arrive, on va à un mariage. Et bon, vous savez, maintenant, dans les mariages, c'est à la mode, ils vous servent un petit truc, là, deux trucs qui se battent en duel, mais c'est le design. Et tu rentres à la maison, t'as faim. Pourtant, le gars, il a payé son repas, je sais pas combien. D'accord? C'est bon, c'est très bon. Mais tu rentres, d'accord? Voilà, ça remplit pas. Ça veut dire, pour peu que t'étais pas au buffet, c'est à ça que sert le buffet. Pour peu que t'étais pas au buffet, tu arrives, tu rentres à la maison, t'as faim. Et pourtant, on paye très très cher pour ce repas. Pourquoi on paye très très cher? Parce que
notre traiteur a besoin d'argent.
Je vais expliquer quelque chose de seconde. Pourquoi on paye très cher? Parce que il y a deux choses. Il y a le fait de manger du pain, manger des choses qui bourrent. Et il y a le fait de manger des choses raffinées. Et c'est deux choses différentes. Des fois, les deux sont en même temps. Mais des fois, c'est pas la même chose. Des fois, ce qui est raffiné ne va pas être forcément appétissant. Ça va pas forcément remplir le ventre. Pourquoi j'explique ça? Ben, c'est la même manière quand on étudie la Torah. Quand on étudie la Torah, c'est de la même manière. On a deux cuisiniers là, hein, ils me regardent, ils... Alors, de la même manière, quand on étudie la Torah, il y a différentes catégories d'études de la Torah. Il y a des gens qui vont étudier, par exemple, le Chumash. Il y a des gens qui vont étudier la Mishnah. Il y a des gens qui vont étudier la Gemara. Il y a des gens qui vont étudier les commentaires de la Gemara. Il y a des gens qui vont étudier le Rashi. Il y a des gens qui vont étudier le Tosfot. Il y a des gens qui vont étudier le Zohar. D'accord? Plus on avance, et plus on est dans le raffiné. Et on a besoin de tout. De la même manière que quand on mange, il faut de tout. Il faut des plats raffinés, mais il faut aussi quelque chose qui bourre. Il faut bien manger, il faut que ça remplisse le ventre. Et bien, de la même manière, quand on étudie la Torah, on retrouve tous ces aspects-là. C'est-à-dire qu'en vérité, pour qu'une personne soit épanouie spirituellement, il a besoin de brasser beaucoup. Il a besoin de varier. Comme la nourriture. Tu peux pas manger tous les jours le même plat, ça marche pas. Il faut varier au maximum. Il faut avoir un peu de halakha, un peu de mishnah, un peu de gemara, un peu de zohar, un peu de chassidut, un peu de tout. Et avec tout ça, c'est comme un plat composé, dans lequel il y a un premier plat, un deuxième plat, un troisième plat. C'est là que tu sens que c'est un plat qui était équilibré. Eh ben, c'est exactement la même chose dans la Torah. Tu peux pas venir et dire, moi, j'aime ce plat, servez-moi tous les jours le même plat et je vais me bourrer de ce plat. C'est bien, c'est peut-être bon. D'accord? C'est peut-être bon, peut-être tu vas kiffer. Mais pour ton corps, c'est pas bon. Le corps a besoin de varier. Eh bien, exactement la même chose qu'on retrouve dans le Limoud à Torah. C'est pour ça que c'est important, on insiste beaucoup sur l'importance d'étudier la Chassidut. C'est quoi la Chassidut? La Chassidut, c'est du Zohar qui est mis à notre portée. Il fut un temps avant le Baal Shem Tov, dans lequel la Chassidut, le Zohar, c'était donné seulement aux personnes qui étaient déjà d'un très haut niveau. Et ces gens-là, eux, pouvaient toucher au plat raffiné de la Torah qui est le Zohar. Le Baal Shem Tov est venu, il a dit aujourd'hui on est dans une telle génération que les gens sont tellement pas loin de la Torah, mais ils sont tellement loin d'Akadosh Baruch Hu, que pour les rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, il faut petit à petit leur faire goûter des choses raffinées pour qu'ils deviennent raffinés. Maintenant, comment tu peux venir une personne qui n'a aucun goût sur un plat raffiné, sur la gastronomie, tu lui amènes un plat, il va te l'arracher ton plat. Il connaît pas la gastronomie. Mais je dois quelqu'un qui sait pas ce que c'est la gastronomie, tu lui amènes un plat de gastronomie, mais il te le jette à la figure ton plat. Donc il faut le mettre à sa portée. Et c'est ça la chassidoute. La chassidoute, c'est on a pris la haute gastronomie de la Torah, on a pris le Zohar, et on l'a mis à notre portée. Petit à petit, on le fait descendre à notre portée de manière à ce que, sans qu'on se rende compte, on mange des plats raffinés, on mange des choses extraordinaires. Et que sans qu'on se rende compte, on voit comment ça change. On voit comment ça change notre personne. Donc, car il en est de même, dans les mots. Bi'idiyat Torah vasagata. Qu'est-ce qu'il y a, Joe? J'ai pas compris.
Non, j'ai rien dit.
Si, vous avez dit quelque chose.
Il veut changer de métier.
Alors. Il veut faire du raffinement. Il parle de plat.
Ah, ah, ben au contraire. Je veux... Hein? Parce que c'est la Torah, parce que la Torah est comparée au pain. C'est écrit comme ça, la Torah est comparée au pain. Donc si on nous compare la Torah au pain, hein, j'ai compris Joe, mais c'est une image. Si on nous compare la Torah au pain, ça veut dire qu'on retrouve dans la Torah des aspects qui ressemblent à la nourriture.
Sauf qu'en mangeant le pain, je fais pas d'effort, mais pour utiliser ça, il faut beaucoup d'effort.
Quel rapport? Excusez-moi. D'abord, il y a la nourriture. Il y a certaines nourritures qui demandent beaucoup d'efforts aussi.
Il faut comprendre. On avance, mais on peut pas avancer.
Vous faites un effort, mais vous vous rendez pas compte. Quand vous prenez quelque chose dans votre bouche, vous allez le mâcher, et votre corps va faire un effort qui va durer plusieurs heures pour digérer et pour travailler cet aliment-là, pour le trier. Seulement, comme on est habitué, on ne se rend pas compte. D'accord? Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand on a mal au ventre, c'est là qu'on se rend compte qu'en vérité, notre corps fait un gros travail. Mais notre corps, il fait un travail énorme. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on sent après qu'on a mangé, on se sent fatigué. On sent que notre corps, il travaille. Pourquoi? Parce que c'est un travail. Donc, de la même manière que notre corps travaille physiquement, et ben, de la même manière, quand j'étudie quelque chose, mon cerveau travaille. D'accord? C'est exactement la même chose. Seulement, un, c'est les intestins qui travaillent, l'autre, c'est le cerveau qui travaille. Mais le concept est le même. On va devoir mâcher, on va devoir digérer. Et ça prend du temps. C'est de la même manière qu'une nourriture, des fois, ça prend plusieurs heures à être digérée. Et bien, de la même manière, des fois, un concept que tu vas étudier, ça peut te prendre plusieurs jours à digérer. Plusieurs semaines, plusieurs mois. Des fois, un concept, tu l'as entendu, il est là. Et des fois, c'est seulement plusieurs mois ou plusieurs années plus tard, que pack, tu percutes, tu dis, ah, c'est ce qu'il voulait dire, c'est ça ce qu'il voulait dire le texte, ah, maintenant je comprends. Parce que c'est exactement comme la nourriture. Il faut digérer, et des fois ça revient au bout de quelques temps. Et ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est qu'en vérité, de la même manière que la nourriture, même si on se rend pas compte sur le champ, mais en vérité, avec le temps, notre corps va grossir, notre corps va prendre du poids, on va avoir plus de sang, on va avoir plus de chair parce qu'on va grandir. Et ben, de la même manière, quand on va consommer la Torah, et ben, forcément, avec le temps, notre corps, d'accord, notre neshama et notre âme va changer, va plus s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. On va marquer une pause pour les questions.
Ça me rappelle ce qu'a dit Abraham, et les herbes dans différents. Bien digérer, bien comprendre, bien travailler une notion pour la scénario au moins 24 fois.
Je sais pas, j'ai pas vu. Ah d'accord, moi j'ai pas dit, d'accord. Peut-être, oui.
Alors, il y en a qui disent que c'est 40 fois pour les digérer. Et je dis non, au minimum c'est 24 fois pour commencer
à l'assimiler. D'accord. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Benidin? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi le 100%, je suis d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions en bataille? Allez-y.
Quand tu as dit il y a un truc qui bourre plus que les autres, est-ce que dans la, on va dire, le fromage, ça bourre plus que la Gemara? Est-ce que la
Gemara
est plus raffinée?
C'est une image. C'est pas plus raffiné. C'est qu'il y a quatre couches dans la Torah. Il y a le Pshat, le Remez, Drash et Sod. Et plus on monte en gamme, et plus c'est raffiné. Voilà, exactement. Plus on monte en gamme, et plus c'est raffiné. Seulement, normalement, la manière comme on aurait dû faire, c'est qu'on passe au plat raffiné, d'accord, en dernier. D'abord, t'as le buffet, dans lequel tu manges, et après, tu passes au plat raffiné. Seulement, nous, comme on est dans une génération qui est déjà très très basse, donc on a besoin directement d'attaquer le plat raffiné. Parce que le fait même d'attaquer le plat raffiné, ça raffine mon corps, ça raffine ma personne. Quand je mange des choses raffinées, je deviens raffiné.
Alors, on doit savoir le sod directement? On doit prendre le sod directement avant le chat?
On met un sod qui est adapté à notre niveau.
On n'a pas le temps de tout.
Allez-y.
Faire dans...
Messieurs, si vous posez des questions, posez la voix haute. Allez-y. Qu'est-ce qu'il y a?
Après la gloire, après le sod.
J'ai pas compris.
Plus qu'une vie.
Ouais. Faut commencer à ça.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Même pas.
Ok. Bon. D'autres questions ? Parce que normalement, la logique est qu'on ne commence pas par le plat raffiné. On commence d'abord par le plat qui va te remplir ton ventre. Et après, on passe au raffiné. Seulement, comme des fois, tu as une personne qui est très très loin et quand il va consommer un plat raffiné, ça raffine une personne. Parce que Rabbeinu Bechaye, c'est écrit aussi dans Sefer Achinour, il dit que la personne, il est ce qu'il mange. Et si on mange des choses grossières, on devient grossier. Si on mange des choses raffinées, on devient raffiné. C'est la base de la raison pour laquelle on mange uniquement des animaux qui sont purs. Parce que les animaux qui sont purs, c'est les animaux qui sont plus raffinés. Donc de la même manière, quand on mange des aliments raffinés, on devient plus raffiné. Quand on étudie des textes de Zohar et de Chassidut, etc., automatiquement, on devient plus raffiné.
Nous, on n'est pas plus raffiné que...
On parle des Neshamot.
Oui, même Neshamot,
pas Neshamot. Monsieur Benita, c'est une question ou c'est...
Non, parce que là, je ne suis pas d'accord.
On parle pas de...
Vous n'êtes pas d'accord avec quoi ?
Avec quoi ?
Il n'a pas digéré,
c'est pour ça. Je pense que ceux qui ne mangent pas cachère.
Attendez,
qui ne mangent pas cachère.
Quel rapport avec manger cachère ?
Non, mais parce que vous avez dit que nous, ce qu'on mange, c'est raffiné. C'est pour ça qu'il y a le truc permis et le truc qui sont interdits.
Je dis
simplement, non, mais d'accord, ceux qui mangent des choses interdites, pour autant, ce n'est pas pour ça qu'ils ne sont pas raffinés. Et pourtant, ils mangent des choses interdites.
Qui a dit pas raffiné ? J'ai dit qu'ils sont moins raffinés.
Ou moins raffiné, okay. Ou pas raffiné.
Vous avez le droit de ne pas être d'accord. C'est une réalité en tout cas.
Mais pour autant, ils sont pas. On peut pas dire que nous sommes les seuls à être raffinés et les autres, c'est tous des brelettes. Voilà.
Bon, on continue. J'ai pas dit ça, monsieur Benita. Excusez-moi. J'ai pas dit ça.
Enfin, bon,
ok, on va continuer.
C'est ça que ça veut dire.
Non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Ce que j'ai expliqué, c'est que quand une personne mange des choses raffinées, automatiquement, il devient plus raffiné. Prenez une personne qui n'a jamais mangé de plat gastronomique. Quand vous le prenez, il se jette sur un plat. Petit à petit, vous l'amenez dans un restaurant gastronomique. Au début, il comprend pas. Il mange, il arrache, il avale. Tu vas l'apprendre petit à petit à venir une fois, deux fois, trois fois, cinq fois, dix fois au restaurant. Et tu le regardes manger comme un goinfre, mais tu dis rien. Avec le temps, il va devenir plus raffiné, il va savoir manger de manière plus posée. C'est comme ça. Ben, la même manière dans l'étude de la Torah. Quand on étudie des choses plus raffinées, eh ben, ça me rend plus raffiné, et automatiquement, avec le temps, même si au début je me rends pas compte, je deviens plus raffiné. C'est tout. C'est juste cette notion-là qu'on va les récupérer. On va développer encore ces concepts. Donc, il dit ici, Nase mazon le nefesh ve chaim be kirba, me chaye a chaim en sov aruchu, ame lubash be chochmato ve torato be kirba, ve zeu sheketuv, ve toratra be tochmeaï. Avec ça, on va comprendre ce que le roi David dit dans le psaume 40. Il dit, ve toratra be tochmeaï, ta Torah se trouve dans mes entrailles. Et là, on repose la question de Joe, mais quel rapport entre la Torah et les entrailles? Il n'y a pas de rapport. Et là, en vérité, on comprend que le roi David ici, il voulait nous montrer l'image que de la même manière que la nourriture, on la met dans les entrailles, qu'est-ce qui se passe avec la nourriture dans les entrailles? C'est là qu'elle va être travaillée, c'est là qu'elle va être filtrée, c'est là qu'elle va être digérée, que ça prend du temps. David Ameler, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Il dit, Vetoratra, ta Torah, Vetor Meaï, elle est dans mes entrailles, ça veut dire que je vais prendre du temps pour la digérer, de la même manière que je prends du temps pour digérer mes aliments. Moshe Katouf, Etzraim, Char, Memdalet. Ainsi qu'il est écrit. Dans le commentaire Etzraim, de Rabbi Chaim Vital. Char, Memdalet. D'accord? Père et Guimel. Donc ça, c'est la référence. Shel vouché a neshamot be ganeden en a mitzvot, ve a Torah i amazon i neshamot. Là, il faut qu'on s'arrête un peu sur cette notion-là. Rabbi Chaim Vital dit, et donc, au nom du Harizal, il dit que de la même manière qu'un homme ici-bas, pour vivre, pour être en bonne santé, il a besoin de deux choses. Il a besoin de manger, et il a besoin de vêtements. De se vêtir. À quoi sert le vêtement? On avait fait un cours une fois sur ça, vous vous rappelez? À quoi sert un vêtement? Un vêtement, ça sert à plusieurs choses. D'abord, ça sert à se couvrir. Ça sert aussi à s'exprimer. D'accord? On utilise un homme pour s'exprimer. Mais ça sert principalement à se couvrir. D'où on sait que ça sert principalement à se couvrir? Parce qu'on voit que le premier vêtement qu'il y a eu dans l'histoire, d'accord? Qui c'est qui a porté le premier vêtement? C'est Adam et Chava. Pourquoi ils ont porté ce vêtement? Parce qu'ils se sont sentis nus. Donc, ils ont porté un vêtement pour se couvrir. Donc un homme a besoin d'un vêtement pour se couvrir, mais le vêtement peut servir aussi pour m'exprimer. Comme par exemple, si je veux me sentir en mode sport, ben je vais mettre des vêtements sport. Si je veux me sentir classe, je vais mettre des vêtements classe. C'est-à-dire que le vêtement, c'est aussi un moyen d'expression. Que bien qu'il est là pour cacher une personne, il est là comme un moyen d'expression. Donc une personne a besoin de... S'il vous plaît. Une personne a besoin de vêtements, et il a besoin aussi de manger et de boire. Eh bien, dis-le à Harizal. De la même manière, la Neshama a besoin de vêtements, et elle a besoin de manger. Quels sont les vêtements de la Neshama? Très simple, c'est les mitzvot. Te dis le Harizal, chaque fois que tu fais une mitzvah, c'est comme si que tu t'enveloppes d'un beau vêtement. Tu mets un beau vêtement, tu mets un vêtement classe. Tu fais une avéra, t'as fait une tache sur le vêtement. Tu refais une mitzvah, t'as remis un beau vêtement dessus. Tu refais une avéra, t'as fait une tache. T'as fait deux avérot, deux taches. D'accord? Et comme il dit le Harizal il dit comme ça là-bas, il reprend le Zohar, il dit, si tu fais la même avéra deux fois, tu repasses sur le même endroit et ta tache devient plus profonde. Tu fais la même avéra trois fois, la tache a transpercé, elle est passée de l'autre côté. D'accord? La tâche est passée de l'autre côté. C'est pour ça que selon le Zohar, une fois qu'on a fait une avéra trois fois, après, une fois qu'on a fait trois fois, bien sûr qu'au niveau de la punition, bon, d'accord? Il y a presque plus de différence au niveau de la Neshama si je le fais trois fois ou dix fois. Parce qu'on a déjà transpercé, c'est fini, il a transpercé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on voit que de la même manière qu'on a besoin de manger, on a besoin de se vêtir aussi. Et comment la Neshama se vêtit? La Neshama se vêtit au travers des mitzvot. Quand chaque fois que je fais une mitzvah, je m'enveloppe d'un vêtement. Je m'enveloppe d'un aura de lumière qui m'entoure. Maintenant, moi, je le vois pas maintenant. Mais quand on va arriver après, en haut, après 120 ans, Akadosh Baruch Hu va nous montrer les vêtements, il va nous ouvrir la garde-robe, il va dire voilà les vêtements que tu as emmagasinés. Voilà, là t'as un beau vêtement, bon ce vêtement-là il n'est pas terrible, d'accord? Et le Baal Shem Tov avait expliqué aussi la même chose, il disait que chaque fois qu'on fait par exemple une mitzvah sans kavana, ou chaque fois par exemple qu'on fait une tfila mais qu'on va sauter quelques mots, donc c'est comme si que tu enlèves une partie du vêtement. Imagine toi, tu vas arriver en haut, t'as un vêtement, tu prends une veste, il manque un bras. Non, d'accord? Boutons, il manque un bouton, il manque quelque chose, tu vois, il manque quelque chose. Ah, c'est dommage, la vérité, elle est pas parfaite, cette veste. Ben, c'est la même chose. Chaque fois qu'on fait une mitzvah, c'est comme un vêtement. Et plus la mitzvah est parfaite, et plus le vêtement est parfait, tip top. Si t'as eu des petites pensées par-ci par-là pendant la mitzvah, on a arraché un petit bouton, on a arraché un petit truc, on a arraché un petit quelque chose. Et quand on arrive en haut, c'est là qu'on voit les vêtements qu'on a eus. Mais ça dit le Harizal, il dit ça, c'est que des vêtements. Le vêtement, c'est pas le corps de l'homme. Il y a le vêtement, et il y a moi. Et le vêtement sera jamais moi, et moi je serai jamais le vêtement. Je peux utiliser le vêtement pour me couvrir, il va être à mon service. Je peux utiliser le vêtement pour m'exprimer, mais le vêtement sera jamais moi. Il y a moi et il y a le vêtement. C'est pour ça que moi je peux décider de mettre un vêtement qui exprime une chose aujourd'hui, alors qu'hier j'ai mis un vêtement qui exprimait autre chose, bien que je suis la même personne. Je peux aujourd'hui mettre un vêtement sport et me la jouer cool, et demain, mettre un vêtement classe. Ah, pourtant, c'est la même personne. Comment tu peux porter deux vêtements différents? Parce que le vêtement, c'est pas moi. C'est extérieur à moi. Donc, comme c'est extérieur à moi, je peux avoir deux vêtements et c'est pas contradictoire. C'est pour ça que dit le Harizal, on peut avoir une personne qui maintenant, il fait une mitzvah, et juste après, il fait une avéra. Et après, il refait une mitzvah. Tu dis, mais c'est pas possible, c'est incompatible. Comment tu peux faire une mitzvah et après, tu fais une avéra? Comment tu peux venir voir une personne qui fait toute l'avérote et tu lui dis, viens mettre les tefilines? C'est incompatible. Il arrête pas de faire des avérotes, c'est pas compatible. Le Harizal pose la question. C'est quoi la réponse de l'Arizal? C'est comme un vêtement. C'est pas parce qu'il y a 5 minutes j'ai porté un vêtement qui était moche que j'ai pas le droit de porter un vêtement classe maintenant. D'accord? C'est pas parce que mes vêtements sont sales que j'ai pas le droit de porter une cravate. C'est mon problème. Maintenant tu me diras, c'est dommage. D'accord? T'as porté une cravate et le reste c'est pas beau, c'est dommage. Et pas de problème. Mais avec ça on comprend l'idée du vêtement. Que le vêtement c'est pas moi. Le vêtement c'est quelque chose qui m'entoure. Donc le vêtement c'est quoi? C'est les mitzvot. C'est mamash les mitzvot. Et là on se retrouve à fond dedans. Comment? Autant je peux mettre un vêtement qui me va pas du tout et juste après je mets un vêtement qui me va, autant je peux faire de la même manière, puisque le vêtement c'est comme les mitzvot, je peux faire une avéra et juste après je suis à fond dans une mitzvah. Et c'est compatible parce que j'ai changé de vêtement. J'ai ouvert la garde-robe, j'ai changé la avéra, tac, j'ai mis une mitzvah. Mais ça, dit le Harizal, ça c'est valable que pour les mitzvot. Les mitzvot c'est comme le vêtement. Mais il dit dans la Torah c'est pas comme ça. Tu peux pas venir et dire, je vais ouvrir un texte qui parle par exemple de Avodah Zara, et tu dis, c'est pas grave, après, dès que j'ai fini de lire ce texte, je ferme ce livre et j'ouvre un autre livre et c'est fini. Non, 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 dit le Harizal. Là, la différence, c'est que quand tu as emmagasiné quelque chose dans ton cerveau, ça fait partie de toi. C'est pour ça qu'on fait très attention à ce qu'on montre aux enfants, on fait très attention à ce qu'on étudie et à ce qu'on regarde. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? J'ai regardé une image pas cachère. Ben, ça va, j'ai regardé. Et après, j'ai regardé le Sefer Torah. Et voilà, c'est comme une mitzvah. J'ai mis un vêtement, j'ai changé de vêtement. T'as dit, non, c'est pas la même chose. Le principe des vêtements, on peut l'appliquer que pour les mitzvot. C'est que là, effectivement, je mets un vêtement, j'enlève le vêtement, et je peux changer de vêtement facilement. Mais quand on parle d'une compréhension que tu as d'une image qui rentre dans ta tête, l'image, elle reste gravée à vie dans ta tête. Elle bougera plus jamais de ta tête. Et ça partira jamais. Alors après, il faudra faire un effort pour essayer de changer ma conception. Mais c'est un travail qui est très très long. Pourquoi? Parce que la Torah n'est pas comparée à un vêtement. La Torah est comparée aux aliments. C'est comme si une personne qui va dire, j'ai mangé du poison. C'est pas grave, qu'est-ce qu'il y a? Juste après, je vais manger de la viande et du pain. Mais ça va, qu'est-ce qu'il y a? J'ai mangé du poison, mais après j'ai mangé de la viande, c'est quoi le problème? Non, ça marche pas comme ça, t'as mangé du poison, ça fait un dégât à l'intérieur, c'est fini, c'est trop tard. Je peux plus récupérer ça. Le vêtement, j'ai mis un vêtement qui était pas classe il y a une demi-heure, je peux changer de vêtement, il reste aucune trace d'avant. Mais la nourriture, ce que tu as mangé, ça laisse des traces ad vitam aeternam. Ça veut dire que jusqu'à la fin de ta vie, ce poison que tu as mangé a laissé des traces. Il partira jamais. On peut essayer maintenant de prendre des médicaments pour faire en sorte qu'on va rester en bonne santé, etc. Mais ça laisse des traces, ça partira jamais. Ça a laissé une trace, c'est fini. C'est pour ça qu'on nous explique l'importance de manger cachère. Tout à l'heure, plusieurs ont parlé de manger cachère. On dit qu'une personne qui n'a pas mangé cachère, ça laisse des traces ad vitam aeternam dans sa vie. Il y a plusieurs tzadikim, le Rav Stenzel, dans son commentaire sur le Tanir, sur ce chapitre, il raconte, il dit qu'il y a plusieurs tzadikim qui disaient que des fois, ils avaient un blocage dans le service de Dieu. Pourquoi ils avaient un blocage? Parce que, quand ils étaient petits, des fois, dans la réalité de cette époque-là, des fois, ils n'ont pas mangé cachère à 100%. Parce que dans la réalité de cette époque-là, des fois, la maman était très malade. Et quand elle était malade et qu'il n'y avait pas d'autres personnes à qui donner à allaiter, alors on donnait à allaiter à la voisine. C'était la pratique à l'époque. Des fois, on n'avait pas le choix. La mère était très malade, il fallait donner à allaiter.
Cachère, il allaiter chez une autre femme.
Non, c'est cachère. Mais c'est quoi le problème? C'est que des fois, la voisine était une personne qui mangeait pas spécialement cachère. Pas cachère. Tu dis, pas grave, qu'est-ce qu'il y a? Elle donne du lait. Oui, mais d'où il vient ce lait? Ce lait vient de ce qu'elle a mangé. Et donc, elle est tzadiki, mais ça, c'est un niveau. Qui disait, je sens dans ma chair un blocage. Parce que je sens qu'il y a des traces pas cachères. Et ça l'accompagnera jusqu'à la tombe. Ça partira jamais. Parce que ce qu'on mange, ça fait partie de nous. De la même manière, ce qu'on étudie. Ce que j'étudie, ce que je mets dans ma tête, ça fait partie de moi. Donc, quand je rentre une bêtise dans ma tête, ça fait partie de moi jusqu'à la fin de ma vie. Quand je rentre un Dvar Torah dans ma tête, même si je crois que ça m'a rien fait, ce Dvar Torah m'accompagnera jusqu'à la fin de ma vie. Si c'est valable pour du poison, bah ça peut être valable pour une bonne chose aussi. Que quand t'as mangé quelque chose qui était appétissant, qui était bon pour ton corps, il t'accompagnera jusqu'à la fin de ta vie, jusqu'à la tombe. De quoi sera composée la chair? Des bonnes choses que j'ai mangées, des choses qui étaient appétissantes, des choses qui m'ont permis de grandir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec ça, on veut expliquer la différence fondamentale qu'il y a entre la Torah et les mitzvot. Une mitzvah, ça entoure une personne. C'est pour ça qu'avec la même main, je peux maintenant mettre la tzedaka et 5 minutes plus tard, mettre un coup de poing à quelqu'un. Il n'y a aucun problème. Alors, il y a 5 minutes, ma main était entourée d'une aura de lumière. Dans 5 minutes, elle sera entourée d'une aura de Touma. Il n'y a aucun problème, parce que c'est un vêtement. Un vêtement, tu l'enlèves, tu le remets, c'est tout. Mais quand c'est l'étude de la Torah, hein, quand c'est quelque chose que tu étudies, que tu rentres dans ta tête, c'est comme la nourriture, ça laisse une trace ad vitam aeternam. Voilà pourquoi c'est très 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 important d'étudier la Torah, encore plus important que faire les mitzvot, par rapport à ce concept-là. Parce que étudier la Torah, ça laisse une trace ad vitam aeternam qui ne partira jamais de ma personne. Mais, d'un autre côté, on comprend aussi que regarder des bêtises, d'accord, réfléchir à des bêtises, c'est quelque chose qui m'accompagnera aussi jusqu'à la fin de ma vie. Alors maintenant, après, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye de faire que la majorité de mes pensées soient cachères pour que mon cerveau soit un maximum positif. D'accord? C'est comme la nourriture. On sait très bien que lorsqu'on mange, il y a des choses qui sont pas terribles. Mais on va essayer de manger un maximum de nourriture qui soit appétissante et qui soit en bonne santé, et qui nous fait en bonne santé. Et même si certains aliments, on va manger du sucre, on va manger des choses comme ça, on dit bon, la majorité était bonne, ça passe. Mais il faut savoir que chaque chose qu'on mange laisse une trace en nous ad vitam aeternam. Et donc, la même chose. Voilà, avec ça, on comprend comment la Torah est comparée à un aliment. On refait une pause pour les questions, allez-y.
Mais alors, d'où l'intérêt, enfin non, je ne vais pas dire ça, mais même au mieux des cas, quelqu'un qui aurait fait une teshuva.
Bonne question.
Il va garder ça tout le temps, alors qu'on parle que de Dieu qui a une miséricorde qu'on ne peut pas comprendre, ce genre de choses. Et comment ça, tu peux le garder alors que la personne, comme j'ai dit au mieux des cas, même si elle fait teshuva, elle est censée être pardonnée, et ne plus avoir...
j'ai compris la question.
...de tâches pour justement pouvoir avoir un meilleur service...
Très bonne question. Alors, puisqu'on a parlé de la nourriture et que t'es dans la nourriture toi aussi, d'accord, t'es dans l'alimentaire, t'es toujours dans l'alimentaire, oui. D'accord. On va reprendre un exemple d'alimentaire. Parce que on dit à propos de la teshuva que lorsqu'une personne fait teshuva, il y a deux catégories de teshuva. Il y a une teshuva dans laquelle on dit qu'on efface les fautes. Il y a une teshuva dans laquelle on dit que les fautes vont être transformées en mitzvot. Si on parlait de l'alimentaire. Imaginons une personne qui a consommé du poison. Et deux options. Première option, c'est qu'on te dit, les médecins arrivent à donner des médicaments qui vont effacer, d'accord, qui vont enlever l'effet du poison. C'est possible. Comment c'est possible? De la même manière qu'un poison, on peut avoir un antidote. D'accord? Un antidote qui va effacer l'effet du poison. Mais nous, on n'a pas la force de faire que ce poison, on va transformer en bonne chose. Le maximum qu'on peut faire, c'est je prends le poison, j'arrive à l'effacer. Je fais comme si qu'il n'y a jamais rien eu. Mais dans la teshuva, on dit qu'une personne qui fait teshuva de tout son cœur, mais cette teshuva, ça va être dans la suite. Ça va être dans les chapitres suivants, parce qu'il nous faudra plusieurs chapitres pour développer ça. Et ben, cette personne-là, non seulement qu'on peut effacer le poison, mais ce poison, peut se transformer en bien.
L'élève, quoi.
Ça, mais ça, c'est une grande question. Comment c'est possible? C'est impossible, normalement. Dans l'alimentaire, c'est impossible. Une personne qui a consommé du poison, jamais on te dira le poison va se transformer en du pain. C'est impossible. Au maximum, on va effacer l'effet du poison. Et si on arrive, c'est déjà un exploit. Et qu'est-ce qu'on te dit? Là, on te dit non. Le poison de la Avera va se transformer en mitzvah. Comment on peut arriver à des choses comme ça? Ça, on devra arriver plus tard à un commentaire du Baal Shem Tov. Il y aura plusieurs commentaires du Baal Shem Tov pour expliquer comment c'est possible. Mais c'est pour répondre à ta question. Que lorsqu'on fait Teshuvah, Akadosh Baruch Hu peut donner la possibilité à une personne de se régénérer, de devenir quelqu'un de nouveau.
Mais c'est pas en demander trop, vu que c'est une
forme. Non? Enfin, pas du tout.
Parce qu'il y a Teshuvah, il y a apparemment, comme tu dis, Teshuvah Ava, je sais pas ce que
Oui.
Mais voilà, quoi. Donc il y a plusieurs.
Il y a une Teshuvah Meir'a, il y a une Teshuvah Me'ava. Il y a une Teshuvah par la crainte de Dieu. Parce que j'ai peur de quelque chose, parce qu'il y a des événements qui arrivent et que je me remets en question. Ouais, il y a une teshuvah par amour de Dieu. La teshuvah par amour de Dieu est beaucoup plus compliquée, beaucoup plus dure à accéder. En général, la majorité des gens qui font teshuvah, parce qu'ils ont eu des événements dans leur vie qui les ont fait réfléchir. Ouais. Et donc, quelque part, c'est une sorte de peur. Ou de peur, ou de crainte révérentielle, ou, après, tu peux appeler ça de plusieurs manières, mais c'est une sorte, il s'est remis en question, et il a compris qu'il y a un problème. Donc, c'est de la crainte, ça. C'est pas de l'amour. Faire que je vois par amour, c'est un très très grand niveau qui est très compliqué, qui est donné à très peu de personnes. D'ailleurs, très peu de personnes arrivent à ce niveau-là. Mais ça, je ne vais pas rentrer dedans. J'ai mentionné ça pour répondre à ta question, pour t'expliquer que la teshuva peut donner la possibilité à une personne de se régénérer. C'est tout ce que je voulais dire. Ça, plus longuement, on verra dans le chapitre 15. Comment la teshuva peut permettre à une personne de se régénérer. Voilà, c'est bon, c'est sa question, d'accord? Parce que là, dans l'alimentaire, on ne retrouve pas ça. Dans l'alimentaire, on ne retrouve pas que le poison se transforme en pain. On ne retrouve pas ça. Ça, chapitre 15. Chapitre 15. Voilà, vous l'avez dans votre le livre blanc. Chapitre 15, il est dédié pile à ce thème-là.
Amen. Quand on fait une avera. C'est comme quand on fait une mitzvah. La mitzvah, comme tu as dit, elle peut s'effacer, etc. Donc quand on fait une avera,
alors, non, faux. Une mitzvah ne s'efface jamais.
Non, pas, ça veut dire qu'elle ne peut pas s'effacer. Mais tu as dit, on peut très bien faire une mitzvah, le lendemain faire une avera.
Voilà.
D'accord. Donc si je fais une avera, c'est possible que si je fais tes chouvas, elles s'en aillent. Il n'y a pas de problème.
Si je fais une avera, qu'est-ce qui s'en va?
L'avera. Bah, le fait que l'avera, enfin, il n'y a pas de trace, quoi. Tu vois,
c'est ce que je dis. Ça dépend quel type de avera. Si c'est par exemple une type d'avéra que une personne, il a mis avec sa main une pièce de tzedaka, d'accord? Donc c'était une avéra qui était liée à l'action. Il a mis une pièce de tzedaka et 5 minutes plus tard, il a pris son poing, il a donné une claque à quelqu'un. Là, dans ce cas-là, est-ce qu'on va dire que sa main est devenue mauvaise? Non, la main n'est jamais devenue mauvaise. Parce que la main, elle a été simplement entourée. Une fois, elle a été enveloppée d'une bonne action. Donc on voit qu'il avait envie de faire une bonne action avec sa main. Et une autre fois, elle a été enveloppée d'une mauvaise action. Mais la main, tu peux l'envelopper comme tu veux. D'accord? Il n'y a pas de contradiction. Mais ça, c'est uniquement pour l'action. Mais tout ce qui est lié au cerveau, à ce que je vois, à ce que je dis, à ce que j'entends, ça rentre dans la personne et ça laisse des traces ad vitam aeternam. Combien on voit? C'est très à la mode, ça, aujourd'hui, chez les psychologues, aujourd'hui. Quand une personne ne va pas bien, ils vont essayer de le faire remonter à son enfance. Et très souvent, il a un blocage à cause de quelque chose qui s'est passé dans son enfance. Pourtant, depuis, il s'est passé des tas de choses et lui, il l'a oublié. Non, il n'a pas oublié. Parce que toute chose qu'on entend, qu'on dit, qu'on fait, qu'on voit, tout ce qui est lié au cerveau, ça laisse une trace ad vitam aeternam. Après, on apprend à vivre avec. Ça, c'est une chose. Le psychologue, s'il va t'aider, il va t'apprendre à vivre avec.
Mais ça reste,
ça partira jamais. On est d'accord? Et ça, c'est mamash, l'étude de la Torah. Voilà pourquoi c'est très important d'étudier la Torah, en plus de faire des mitzvot, parce que l'étude de la Torah, ça fait que je change intérieurement, pas seulement que je suis enveloppé d'une aura extérieure, mais intérieurement, je change. Ah, je le sens pas, c'est pas grave. Ça va prendre quelques années, et Béhémeth, reprenez des vidéos de vous, il y a 4, 5 ans, 6 ans, vous verrez, d'accord? Et là, vous verrez, vous dites, ah, tiens, disons, j'étais pas le même. Et tu vois qu'il y a une différence. Tu vois, par exemple, des choses que tu as fait il y a 4-5 ans, des manières de réagir, d'accord? Des manières de comprendre. Surtout s'il y a des personnes, des fois, qui écrivent les cours, qui écrivent des choses. Quand tu relis tes notes, ça nous arrive à la yeshiva, des fois. Tu relis tes notes d'il y a 4-5 ans, tu dis, mais mince, on a fait du chemin. Et pourtant, tu te rends pas compte. Au jour le jour, tu te rends pas compte. Exactement comme la nourriture. C'est-à-dire que là, on voit que l'exemple de la nourriture nous permet, mamash, de bien comprendre le concept qu'on a expliqué la semaine dernière. Donc, on reprend au Kumo Shekatouf Be'etzraim. Comme c'est écrit dans Etzraim du Rabbi Chaim Vital, Shar Memtel Ad Perek Gimel. Chez les Vouchas Neshamot de Gan Eden en Mitzvot. Que les vêtements des Neshamot, c'est quoi les vêtements? C'est les Mitzvot! Maintenant, on comprend pourquoi le vêtement c'est une Mitzvah. Ve'a Torah, et la Torah, y Amazon les Neshamot. La Torah, c'est la nourriture de l'âme. Chez Asku, Ba'olamazé, Be'Torah, Lishma. Mais à condition que la Torah, on l'a faite Lishma. Alors ça, je rentre pas dedans. Qu'est-ce que ça veut dire une Torah Lishma? Parce que c'est une notion qu'on va développer plus tard. Que Moshe Katouf Bezoar Vayakel Davreshiud. Parce que vous savez, quand on étudie la Torah, hein,
Il y a plusieurs catégories de personnes qui étudient la Torah. Il y a des gens qui étudient la Torah par curiosité. Rien à voir avec Dieu. On leur dit quand même d'étudier. Il y a des gens qui étudient la Torah par orgueil. Pourquoi par orgueil? Parce qu'ils ont envie de savoir tout. D'accord, monsieur, je veux savoir tout. Il y a des gens qui étudient la Torah, pas seulement par orgueil, mais parce qu'ils ont envie de, je ne répéterai pas le mot que tu as dit, mais ils ont envie de, ils ont envie de se la raconter, de devenir quelqu'un. D'accord? Et quelque part, très souvent, on a un intérêt. C'est très difficile de dire qu'il n'y a pas d'intérêt. Quand chacun de nous, quelque part, dans tout ce qu'il fait, recherche un intérêt. C'est quoi l'imoud à Torah l'ishma? C'est d'étudier la Torah pour Akadosh Baruch Hu. Parce que c'est la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, il y a des moments dans la vie où on arrive, des fois on n'arrive pas. D'accord? Il faut une grande humilité pour dire j'étudie parce que Dieu a demandé. Mais une chose étudie, ce qui est clair, c'est que la Torah, quoi qu'il arrive, peu importe comment tu as étudié, la Torah te dit continue à étudier. Même si tu dis j'étudie parce que je veux devenir quelqu'un de grand, j'étudie parce que je veux leur montrer ce que je sais faire, d'accord? La Torah te dit continue, étudie. Pourquoi? Parce que quand tu étudies, ça laisse des traces éternelles en toi. Et ça va te changer. La Torah, ça change une personne. C'est khatoum, c'est signé. La Torah change une personne. Et encore plus c'est raffiné ce qu'on étudie dans la Torah, et plus ça va changer rapidement une personne. C'est pour ça qu'on voit souvent le rabbi, quand il y avait des gens qui étaient très très loin de la Torah, et vous savez, il y a des gens, des fois, ils viennent à des cours et ça leur fait rien. Qu'est-ce qu'il disait le rabbi? Le rabbi leur disait, ces gens-là, il faut qu'ils touchent directement à la chassidoute ou aux choses profondes et raffinées de la Torah. Pourquoi? C'est pas logique. Normalement, avant de toucher aux choses raffinées, il faut d'abord toucher aux choses, aux éléments de base. Qu'est-ce que répondait le rabbi? Le rabbi répondait comme ça. Il disait, parce que des fois, quand on étudie les parties plus pchates, plus basiques, entre guillemets, de la Torah, ça prend plus de temps pour changer la personne. Mais aujourd'hui, on n'a pas le temps. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont tellement loin de la Torah, que si tu attends le temps qui va changer, d'ici là, hein, monsieur Benita, Hanoun Verachum. Comme ça vous dites, non? Alors. Ouais, je vous cite, hein. Alors. D'ici là, Hanoun Verachum. D'ici là, il a le temps de, le monde a le temps de s'écrouler. Donc, faut accélérer, on n'a pas de temps à perdre. C'est pour ça qu'une personne comme ça, pac, tu lui mets un concept de chassidut dans la tête. Sanéchama. Alors, lui, il croit pour l'instant que ça lui fait rien. Mais c'est comme si tu as fait rentrer une personne qui n'a jamais touché à la nourriture gastronomique, tu le fais rentrer dans un restaurant gastronomique. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, à la fin, il va comprendre qu'on s'arrache pas sur le plat. On prend son temps, on mange, on apprécie, on mange pas comme ça. C'est combien ça vaut ce que tu viens de manger, là? 100 euros ce que tu viens de manger. Qu'est-ce qu'il me l'a arraché comme ça? Et il va prendre le temps de comprendre. Et ben, c'est la même chose. D'accord? Exactement. Sors d'or pour l'instant, il y a 5 euros. Qu'est-ce que tu... On va finir avec ça. Ve Amazon, ou Prinat Orpnimi, va aller vous chez Prinat Makifim. Le Zohar nous explique une autre différence. Il dit que, de manière générale, la nourriture, c'est quelque chose qui change une personne intérieurement. Alors que les vêtements, c'est ce qu'on appelle Makif. Alors ça, c'est une autre notion de Kabbalah, qui s'appelle Pnimi et Makif. Dans la vie, il y a des choses superficielles. Il y a des choses qui rentrent à l'intérieur. D'accord? Le vêtement, c'est pas quelque chose qui rentre à l'intérieur, c'est superficiel. La preuve, je peux m'habiller le matin d'une manière, l'après-midi d'une autre manière, donc c'est superficiel. Et c'est pour ça que le vêtement, ça ne m'intègre pas. Alors que le mazon, la nourriture, c'est quelque chose qui rentre à l'intérieur de moi, qui fait partie de moi. Ah, maintenant qu'on a compris ça, velachen, amourazal, c'est la raison pour laquelle les chachamim m'ont dit. Avec ça, on va comprendre comment ça se fait que les Chachamim ont dit dans le traité PA, ils ont dit que l'étude de la Torah équivaut à toutes les mitzvot. Comment, ça veut dire quoi que ça équivaut à toutes les mitzvot? Autant dans le cours du chapitre 4, vous vous rappelez qu'on avait expliqué que le plus important c'est quoi?
L'action.
C'est l'action. Alors comment on peut comprendre cette Mishnah? C'est une Mishnah. Comment on peut comprendre cette Mishnah qui nous dit que l'étude de la Torah équivaut à toutes les mitzvot? La réponse se trouve dans le mot équivaut. On t'a pas dit qu'étudier la Torah c'est plus important que faire les mitzvot. Non. Le plus important, c'est l'action. Il faut faire les mitzvot, quoi qu'il arrive. C'est la volonté de Dieu. Je dois la faire, peu importe que je la comprenne ou que je la comprenne pas. Mais, l'étude de la Torah, ça équivaut. Ça veut dire que le niveau de perception que tu peux avoir quand tu étudies la Torah, que ça fait partie de toi, ça vaut toutes les mitzvot. Une seconde de Torah vaut toutes les mitzvot. Pourquoi? Parce qu'une mitzvah, ça va jamais rentrer en moi. Ça va m'entourer de quelque chose. Quand je vais prendre ma main et je vais mettre la tzedaka, ma main va être entourée d'une aura de mitzvah, mais ma main va pas changer. Alors que la Torah, ça va devenir une idée qui va faire partie de moi, qui va me changer intérieurement. Voilà pourquoi, d'un côté, on te dit que le plus important, c'est quoi? C'est une mitzvah. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit dans le chapitre 4? Que une mitzvah dans ce monde-ci vaut plus que toute la Torah. Mais d'un autre côté, la perception que tu vas avoir quand tu étudies la Torah, une seconde de Torah, tu ne retrouveras dans aucune des mitzvot. Même la plus grande des mitzvot. Mais la mitzvah la plus importante que tu puisses trouver, croire en Dieu, manger de la matzah, faire la mila, tout ce que tu veux, la mitzvah la plus importante. Jamais on retrouvera le niveau de perception qu'il y a quand on étudie un Dvar Torah. Quand on étudie un Dvar Torah, ça devient partie intégrante de toi, c'est quelque chose qui ne bougera plus. Et c'est quelque chose qui restera vita vitam. Les filles, parce que il y avait une question?
Il est mis de d'être écrit dans la Torah, pourtant.
Bien sûr. Alors, une très bonne question. Il y a deux choses. Et je vais amplifier ta question. Étudier la Torah, c'est une mitzvot. D'accord? Mais c'est ça encore une fois ce que je vais expliquer. C'est qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect mitzvah, le fait que je dois étudier la Torah et que je le fais parce que Dieu m'a ordonné. Et il y a l'aspect compréhension, que je vais comprendre quelque chose. Le fait que je le fais parce que c'est une mitzvah, ça on te dit c'est un ordre, je l'ai fait, c'est tout. Peu importe, je l'ai compris, je l'ai pas compris. Je suis entouré d'une aura de lumière. Je suis venu en cours de Torah, j'ai dormi. Il y a des gens qui dorment, réveillés aussi. Ils sont là, il a dormi. On te dit, c'est pas grave, t'as fait la mitzvah d'étudier la Torah. Pourquoi t'as fait la mitzvah? Parce que Dieu a dit, il faut venir en cours de Torah, t'es venu en cours de Torah.
T'es au stage.
D'accord? Y a pas de problème. Tu as fait la mitzvah, ça veut dire que même si tu as rien compris, tu étais entouré d'une aura de lumière. Exactement comme ta main qui a mis la tzedaka. Mais là, on parle d'un autre niveau. On te dit, il faut pousser plus loin quand on étudie la Torah. Il faut pas seulement être entouré d'une aura de lumière. Être dans un endroit où on étudie la Torah. Il faut plus que ça. Il faut essayer de comprendre même une idée. Même si on retient une idée, une minute, une petite idée, des fois il y a beaucoup d'idées qui sont développées. Même si tu retiens une idée et que cette idée elle devient partie intégrante de toi, que tu rentres chez toi à la maison, tu dis aujourd'hui j'ai appris une idée, même une idée. Cette idée elle t'accompagnera toute ta vie. Elle quittera jamais ton cerveau, jamais. Même si tu crois que tu vas l'oublier, elle ne quittera jamais ton cerveau. Elle fera partie des particules qui composent ton cerveau. Alors que l'aura, ça peut partir. Je peux venir en cours de Torah et après aller, je sais pas, faire quelle bêtise et j'ai oublié les cours de Torah. Mais la trace que le cours de Torah a laissé à l'intérieur, que l'idée de Torah a laissé à l'intérieur, ça ne partira jamais de moi. Donc, et c'est pour ça, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle que dans le Ham Israël, on insiste tellement pour étudier la Torah. Et des fois, comme on a expliqué la semaine dernière, on étudie des choses qu'on a l'impression qu'ils n'ont rien à voir avec le concret. Hein, comme pour ceux qui viennent au cours de Gemara de dimanche matin, voilà, ce dimanche, on a fini les oiseaux du lépreux. Celui qui a marié sa femme avec les oiseaux du lépreux. Hein, le bonhomme, il a marié, c'est-à-dire qu'il est lépreux, il a marié sa femme avec les oiseaux qu'il a offerts parce qu'il était lépreux. D'abord, c'est un petit oiseau. D'accord? En plus, il est lépreux. Et en plus, il va les offrir à sa femme. Vas-y, va trouver une femme qui va prendre ces oiseaux-là. Mais c'est un cas qui n'est jamais arrivé. Il n'est jamais arrivé, ce cas. Et pourtant, on l'étudie. Probablement que, c'est un cas qui est purement théorique. D'accord? Bien sûr. Je vais vous donner un preview le cas la semaine prochaine. Le cas la semaine prochaine dans le cours de Gemara de dimanche matin sera un nazir, d'accord, qui va vouloir être mekadesh une femme avec ses cheveux.
Est-ce que ça vaut une coupe? C'est ma question.
D'accord. Un nazir, c'est un nazir, c'est une personne qui a décidé de voilà. Et donc il va laisser pousser ses cheveux. Et après il coupe les cheveux. Il va donner ses cheveux à une femme.
Pourquoi faire?
Voilà, il dit ça vaut une prouta. Est-ce que ça vaut ou ça vaut pas?
Il faut trouver un expert.
C'est extraordinaire. Mais attendez. Pourquoi on étudie tout ça? Parce qu'encore une fois, le but ici n'est pas de savoir comment je vais me comporter. Je reviens sur une idée qu'on a expliquée la semaine dernière. Il y a des gens qui pensent que la raison pour laquelle on étudie la Torah, c'est pour savoir comment on doit se comporter. Qu'est-ce qu'on a expliqué la semaine dernière? Non! Il y a, entre autres, c'est ça. Mais si le but, c'est simplement de savoir comment on doit se comporter, on pourrait faire un livre d'une centaine de pages qui te dit, là, la halakhot, et c'est fini! Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir le déroulement, comment on arrive à la halakha? Pourquoi tu veux que j'apprenne ça maintenant? De toutes les façons, je suis pas juriste. D'accord? On viendra jamais me voir pour trancher une halakha. D'accord? De toute façon, on ira voir les décisionnaires. Alors, pourquoi tu veux que j'utilise ces choses-là? Parce qu'encore une fois, on n'est pas là pour trancher des halakhot. On est là pour avoir dans notre tête une trace de la chorma d'Akadosh Baruch Hu. Et que cette trace de la chorma d'Akadosh Baruch Hu laissera une trace indélébile dans ma tête qui ne partira jamais, qui m'accompagnera jusqu'à ma tombe et jusqu'au Gan Eden. Et quand j'arriverai au Gan Eden, Dieu, il va ouvrir mon cerveau. Il va dire, viens maintenant, on va revoir les idées. Hop, allez, une par une. Attrape-le, celle-là, t'avais pas compris. Viens, je vais t'expliquer maintenant. Et on reprend les idées une par une. Et comment j'ai expliqué tout à l'heure, on voit, dans la vie, que des fois, des idées, même dans notre vie, sans passer au Gan Eden, des fois, des idées qu'on écoute sur le coup et qu'on comprend pas, des fois, des mois et des années plus tard, pac, t'as un flash, et t'as une idée qui te revient. Et tu sais même pas d'où elle est revenue, cette idée. Si elle est revenue, ça veut dire qu'elle était où? Elle était là. Ah, pourquoi j'y ai pas pensé pendant 2 ans? Pourquoi j'y ai pas pensé? Parce qu'elle était là, elle était là, mais seulement j'ai pas pensé. C'est une trace très profonde. Chaque chose qu'on étudie, chaque chose qu'on fait, laisse une trace très profonde. Voilà pourquoi c'est très 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 important de venir à un cours de Torah et d'essayer de retenir au moins une chose qui va rester, qui va laisser une trace indélébile dans ma tête. Les filles, sha mitzvot em levushim levad, puisque les mitzvot sont uniquement, comme on a dit, des vêtements, ve la Torah et la Torah, himmazon ve gam levush le nefesh am askelet. La Torah, comme pour répondre à la question de Marcel, d'un côté, elle a son côté vêtement, parce que étudier la Torah, comme tu as dit Marcel, c'est une mitzvah, mais elle a son côté compréhension, réflexion, et ça, c'est pas un vêtement, c'est de la nourriture, c'est quelque chose qui laisse une trace. C'est pour ça que l'Admor HaZaken dans les Ilchot Talmud Torah, dans ses lois de Talmud, dans les lois de l'étude de la Torah, il dit qu'une personne dans son étude, il doit essayer de varier au maximum. De manière générale, il doit faire un petit peu de Chumash, un petit peu de Gemara, d'accord? Quand je dis Gemara, je veux dire que Gemara et Halakha, et s'il peut aussi un petit peu de Sod. Il faut essayer de varier au maximum. Comme un plat. Un plat composé, il faut un peu de tout. Exactement. C'est pour ça que c'est étudié. Non, mais c'est vrai, c'est étudié. Quand vous prenez par exemple le Dvar Malchut, vous avez ça, c'est vraiment à la portée de chacun. Vous avez le Chumash tous les jours. Vous avez le Tehilim, ça c'est pour la Neshama. Vous avez du Tanya. Vous avez l'étude du Rambam, donc de la Halakha. Et ça veut dire que en une semaine, vous couvrez un maximum de sujets. Vous brassez beaucoup. Maintenant, toi, quand tu brasses, tu peux croire que j'ai brassé, mais je sais pas ce que j'ai retenu. Je te dis non. T'inquiète pas, tu retiens. Regarde, on fait la même chose pour l'étude de la Torah. Qu'est-ce qu'on fait? Chaque semaine, on lit une paracha. Et hop, l'année d'après, rebelote, on repasse la paracha. Mais est-ce que ça serait pas plus intelligent, peut-être, de rester un an sur une paracha? Non, on te dit, c'est pas grave. Toi, tu crois que t'as pas retenu. Tu dis, mais ça passe tellement vite. On est passé une semaine sur une paracha. On n'a même pas le temps de s'arrêter sur un thème, deux thèmes. Hop, on passe à la paracha suivante. On te dit, t'inquiète pas. Tu crois que t'as pas compris. Tu crois que t'es passé à côté. Mais ça a laissé une trace. Et quand tu vas repasser l'année d'après, pac! Il y a des fois des petites choses qui vont ressortir. Voilà pourquoi c'est très 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 important d'étudier la Torah et surtout d'essayer de retenir quelque chose qui va rester. V'chol Sheken, à plus forte raison, chez Motsi Bepiv Bedibour. Maintenant, il termine avec un point qui développe pas beaucoup ici, mais pour ceux, certainement, les anciens du cours de Tania, se rappellent que l'année dernière, on avait parlé dans les lettres de l'Admor HaZaken de l'importance d'étudier la Torah verbalement. Je sais pas si vous vous rappelez ce qui était là. Verbalement. D'accord? Verbalement. Et qu'est-ce qu'il a expliqué là-bas? Il a expliqué que, il y a étudier la Torah et comprendre quelque chose. Bon, je le fais uniquement avec mes yeux. C'est-à-dire, je lis quelque chose avec mes yeux et je comprends avec mon cerveau. Il y a un autre niveau qui est, je vais parler. C'est pour ça que quand vous rentrez dans une yeshiva, d'accord? En général, les gens s'arrêtent un petit peu pour réfléchir, mais en général, ils sont tout le temps en train de parler. Ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent. Pourquoi ils parlent? Vous rentrez dans une bibliothèque, silence. Et les gens, ils réfléchissent avec leurs yeux et leur cerveau. Tu rentres dans une yeshiva, on parle, on parle, on parle. Pourquoi on parle? Pourquoi tu parles? Pourquoi on fait pas plutôt un système? Chacun, on étudie l'un en face de l'autre, avec nos yeux. Et si on a des questions, on discute. Pourquoi? Parce que c'est très important de parler quand on étudie la Torah. Pourquoi? Parce qu'il faut essayer de faire vivre au maximum les membres de son corps. Quand on fait vivre les membres de notre corps, eh ben, automatiquement, ça laisse une trace qui est plus profonde dans la personne. C'est pas par hasard, vous savez, si à l'école, quand il y avait des punitions, on te disait de répéter 100 fois une phrase, ou d'écrire 100 fois, je ne manquerai plus de respect au professeur, etc. Pourquoi on te demande d'écrire? Pourquoi on te demande de le dire? Parce que quand tu dis quelque chose, quand tu fais quelque chose avec tes mains, d'accord? Ça rentre plus dans la tête, ça rentre, ça laisse une trace qui est plus profonde. Voilà pourquoi, c'est la raison pour laquelle on dit aussi que quand on étudie la Torah, faut remarquer aussi quand on rentre dans la yeshiva, que quand ils étudient la Torah, tu le vois, ils bougent. Et tu vois, à un moment, ils sont partis, hop, ils se lèvent, et ils commencent à bouger comme si, calme-toi, assis-toi, reste tranquille, qu'est-ce que tu t'excites? Pourquoi tu dois bouger tes mains et tes pieds? Pourquoi tout ton corps doit vibrer? En vérité, c'est pas une invention d'aujourd'hui. C'est une invention qui est déjà écrite dans le Tehilim. David Ameler, qui dit, on le dit tous les Shabbats, dans le Nishmat Kol Chai, on dit, Kal Atzmotai Tomarna. Tous mes membres, tous mes os, Tomarna, vont dire ta grandeur d'Akadosh Baruch Hu. La bouche, elle dit la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Comment la main va dire la grandeur d'Akadosh Baruch Hu? La main, à sa manière, elle va parler, elle va dire à Akadosh Baruch Hu, elle va lui montrer qu'elle a envie d'être attirée vers Akadosh Baruch Hu. Et le Baal Shem Tov, il explique, il dit, que comment ça se fait qu'on voit que instinctivement les gens, ils bougent quand ils étudient la Torah ou même quand ils font une fila. On avait expliqué parce que le Baal Shem Tov, il dit, parce qu'en vérité, la Neshama est comparée à une bougie. À une flamme. Et la flamme, vous avez remarqué que la flamme, elle bouge toujours. Pourquoi elle bouge toujours, la flamme? Parce que la flamme, en vérité, s'il n'y avait pas de combustible et s'il n'y avait pas de mèche qui l'a attrapée, elle serait partie. D'accord? Elle serait partie. Pourquoi elle est là? Parce qu'il y a quelque chose qui la retient. Mais en vérité, elle bouge parce qu'elle veut partir. Eh ben, c'est la même chose, dit le Baal Shem Tov. Quand une personne étudie la Torah, pourquoi il se met à bouger? Pourquoi quand il lit un roman, il bouge pas? Et quand il se met à étudier un Torah, hop, il se met à bouger. Pourquoi il se met à bouger? Parce que ça, Neshama, hein, quand il se met à étudier la Torah, hein, la flamme, elle commence à bouger. Elle dit, oh, Kadosh Baruch Hu, maintenant je me rappelle qui tu es, j'ai envie de m'approcher de toi. Donc il bouge. Mais il est retenu par le corps, parce que la Neshama est retenue par le corps. Mais ça change pas que comme la flamme, il bouge, parce que ça lui rappelle son envie qu'il a de s'approcher à Kadosh Baruch Hu. Donc dit le Baal Shem Tov, voilà la raison pour laquelle les gens, quand ils étudient la Torah, instinctivement, ils se mettent à bouger. Ils se mettent à vibrer. C'est la raison pour laquelle, dans les quatre espèces qu'il y a du loulav, celui qui est comparé à ceux qui étudient la Torah, c'est quoi? C'est le loulav. Le loulav, c'est comparé à ceux qui étudient la Torah. Parce que qu'est-ce qu'on fait avec le loulav? On le secoue. Et on voit la même chose, il Baal Shem Tov, dans celui qui étudie la Torah. Qu'est-ce que je veux montrer avec ça ici? Que c'est très important d'étudier la Torah, c'est une mitzvah d'étudier la Torah. Quand j'étudie la Torah, quand je viens à un cours de Torah, il y a trois options. Première option, je viens au cours, j'ai rien compris. On te dit, c'est pas grave, t'as fait une mitzvah. T'étais enveloppé d'une aura de lumière. Option B maintenant. Il faut aller chercher l'option B. Option B, j'ai compris quelque chose. Mais j'ai rien dit, j'étais passif. On te dit, ah, là c'est bien, t'as compris quelque chose? T'as laissé en toi une trace indélébile qui partira jamais, qui t'accompagnera jusqu'à la fin de ta vie. Option C, j'ai vibré, j'ai parlé dans mon étude. Là, on te dit, ça va être ancré encore plus profondément dans toi, et c'est la raison pour laquelle, dans notre étude, on doit essayer, même si vous êtes chez vous à la maison, vous êtes tout seul, et que, on peut vous prendre peut-être pour un fou, tu dis, mais qu'est-ce que t'as à parler, toi? Ça va, Lily? Eh ben, non. Eh ben, sachez que quand on parle, verbalement, ça a plus de chances de rentrer. Et d'ailleurs, la Gemara, elle dit comme ça. Elle dit que, im arucha bakol mishta meret. Elle dit comme ça. Elle dit qu'une segula pour retenir les divrei Torah, c'est les dire. D'accord. C'est la raison pour laquelle, comment on appelle un dvar Torah? On l'appelle dvar Torah. Une parole de Torah. Pourquoi on dit pas une pensée de Torah? Parce que la Torah, hein, si tu veux la vibrer, il faut la dire. Il faut la parler. Il faut que ça rentre dans le concret. Le fait de la concrétiser, de la parler, c'est ça ce qui va faire que ça rentre dans ma personne. Donc voilà pourquoi c'est très important, même quand on est chez soi à la maison, d'essayer au moins quelques minutes, prendre un pasouk de Chumash et le lire. Juste le lire et essayer de le comprendre. Et vous allez voir comment avec le temps, ça laisse une trace dans la personne, ça laisse une trace qui ne bouge pas de la personne. Si je pouvais me permettre une petite comparaison, c'est que de la même manière quand tu as une personne qui mange, et tu as ceux après qui mangent et qu'après ils parlent de ce qu'ils ont mangé. Ou bien en train de manger, il dit « Ah, que c'est bon !» Mais ça n'a rien à voir. C'est deux catégories différentes. Celui qui est là qui mange pas parce qu'il faut manger. Et celui qui est là en même temps en train de dire « Ah, que c'est bon !» qui parle en même temps et qui raconte ce qu'il mange. Mais celui-là, il va s'en rappeler jusqu'à la fin de sa vie de ce qu'il a mangé. Parce qu'il a commenté ce qu'il a mangé. Eh bien imaginez, c'est la même chose de Dvartora. Quand tu commentes en même temps ton Dvartora, même mâche, c'est la même chose que la nourriture. Quand on commence son devoir Torah en même temps, ça laisse une trace qui restera de vitam éternam. Voilà pourquoi les Chachamim insistent beaucoup sur la mitzvah de l'imoud à Torah avec les trois options qu'on a pu développer aujourd'hui, qui est moche, donc chez les filles, parce que chez Hevel Adibour, Naasé, on finit avec ça. Prinat Or Makif, qui est moche, qui est Priyat Sraim, comme c'est écrit dans Priyat Sraim, que lorsqu'on étudie la Torah verbalement, alors là, dans ce cas-là, ça va laisser une trace qui va être encore plus profonde dans la personne. Donc avec ça, on a terminé le chapitre 5. Et avec ce chapitre 5, Baruch Hashem, on a expliqué la trace que fait l'étude de la Torah sur une personne. Donc ce qu'on va faire la semaine prochaine, dans le chapitre 6, maintenant, on va passer, on a beaucoup parlé maintenant, depuis le chapitre 2, vous avez remarqué, de l'âme divine. On a parlé de l'âme divine, des 10 sphirotes qu'il y a dans l'âme divine, on a parlé des trois vêtements, la pensée, la parole, l'action. La pensée, c'est quand je pense à un Dvar Torah, je dis un Dvar Torah, je fais une parole, je fais une mitzvah. On a parlé dans le chapitre 5 de l'importance de l'étude de la Torah, mais on a parlé surtout du côté Yetzer Tov, du bon penchant. Maintenant, le but du Tania, c'est pas de parler que du bon penchant. C'est de parler aussi du mauvais penchant, parce que c'est celui qui nous fréquente toute la journée. Et il faut savoir comment le gérer. Donc à partir du chapitre 6, ça va être beaucoup plus terre-à-terre. Vous allez voir que là, on va faire un plongeon. Alors, ça va être beaucoup plus terre-à-terre. Et là, maintenant, autant on a analysé l'âme divine. D'ailleurs, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, Blin Neder, quand on va commencer le cours, on reprendra le plan qu'on avait eu dans le premier chapitre. Et on montrera où on a avancé, où on en est. D'accord? Ça nous permettra de nous resituer dans le plan. Et une fois qu'on aura bien compris ce que c'est l'âme divine, après, on pourra continuer à développer, à expliquer qu'est-ce que c'est l'âme animale. Voilà. Ça s'arrête là pour aujourd'hui. Merci.